Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amis auditeurs, le mois de décembre est souvent l'occasion de partager des contes de Noël. Et cette année, c'est effectivement un conte de Noël que je voudrais vous lire. Mais en plus de ce livre que je lirai, ce livre a une étonnante histoire. La voici en bref, mais nous la détaillerons ensuite. Rubens Saïens, un pasteur originaire de Saint-Jean-du-Gard, a écrit un conte de Noël intitulé « Le Père Martin ». Or, ce texte ayant été traduit à son insu et en anglais, est paru sans nom d'auteur. Léon Tolstoï, l'écrivain russe l'ayant découvert, et ne lui connaissant pas d'auteur, il l'a pris pour base de travail et, avec quelques variantes, il en a fait un conte de Noël russe. Rubens Saïens, avec étonnement, a découvert dans la traduction française des œuvres de Tolstoï un texte qui ressemblait fort à son propre texte du Père Martin. Un conte au départ, mais deux textes avec des variantes et deux auteurs différents. À la suite, il y a eu bien entendu un échange de courriers entre ces deux hommes. Tolstoï, de bonne foi, n'avait pas prévu de plagier un texte qu'un autre avait écrit. Mais il ne lui connaissait pas d'auteur, alors. Aujourd'hui encore, vous pouvez trouver, par erreur ou méconnaissance de cette histoire, le texte de Rubens Saïens sous le nom d'auteur de Tolstoï. Quant au texte de Léon Tolstoï, si vous voulez le lire, on peut le trouver en traduction française sur Internet. Voici pour la présentation du livre, mais je voudrais, avant de commencer, vous faire une brève biographie de Rubens Saïens lui-même. Il est né le 24 juin 1855 à Saint-Jean-du-Gard. Il n'avait que 2 ans quand sa mère est décédée. Dès son jeune âge, il est attiré par la spiritualité. Après la guerre de 1870, il se convertit et s'engage auprès de l'Union chrétienne de jeunes gens, UCJG, connue dans les pays anglophones sous le signe YMCA, Youth Mission Christian Association. En 1873-1874, il suit des études de théologie à Londres. Après son service militaire, il se marie en 1877 avec Jeanne Crétin. Ils auront 5 enfants. À noter que, parmi ses enfants, sa fille Madeleine Blocher-Saïens sera la première femme pasteur protestante française et que sa fille Marguerite Warguenau-Saïens écrira le livre « Rubin et Jeanne Saïens, évangélistes » en 1947, édité chez Les Bons Semeurs à Paris. Ce livre vient d'être réédité récemment aux éditions Ampelos. En 1878, Rubens Saïens crée la mission de Marseille et du littoral et il est consacré pasteur l'année suivante dans sa ville natale. Après avoir fondé l'école d'évangélisation Félix Neff, il rejoint la mission McCall qui fusionne avec sa mission marseillaise pour devenir la mission populaire en 1883. dans les dernières années du XIXe siècle, il milite pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus et l'envoi d'un pasteur auprès des bagnards de Cayenne. En 1905, il fait le choix du pastorat itinérant, compte tenu de divisions et querelles internes aux églises baptistes françaises, il se tourne alors vers l'ensemble des publics protestants. La même année, il est nommé vice-président de l'Alliance baptiste mondiale lors de son congrès fondateur. En 1921, il fonde avec son épouse l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, destiné à la formation des pasteurs et des missionnaires, et il en sera le directeur. Il y sera rejoint dans les années 30 par Jules-Marcel Nicole et Jacques Blocher. Il est aussi le fondateur de l'Association des églises évangéliques baptistes franco-suisses, à partir de laquelle se formera en 1921 l'Association évangélique d'églises baptistes de langue française. Rubin Saïens décède le 5 janvier 1942 dans sa maison de Condé-sur-Noireau. Rubin Saïens a été l'exemple du responsable chrétien complet, à la fois pasteur, fondateur de nombreuses institutions et communautés chrétiennes. Il est aussi auteur et traducteur de plus de 160 cantiques, dont la Sévenole, en 1884, chant emblématique des protestants français méridionaux. Un de ses récits, le Père Martin, eut même l'honneur d'être involontairement plagié par le grand auteur russe Léon Tolstoï. À propos de cette contestation entre le Père Martin de Rubin Saïens et le livre de Léon Tolstoï, je voudrais vous lire l'échange de courrier dont il nous est parlé à la fois par Rubin Saïens et par sa fille dans le livre qu'elle lui a dédié. Rubin Saïens écrit « Parmi les récits contenus dans ce recueil, il parle du livre qu'il a écrit « Récits et allégories » en 1889, il en est un qui traduit à notre insu en anglais, sans nom d'auteur, eut la bonne fortune de tomber sous les yeux de l'illustre romancier russe Léon Tolstoï. Il le traduisit dans sa langue avec quelques variantes, et nous ne fûmes pas peu surpris, il y a quelques mois, de trouver notre récit traduit du russe en français dans un volume des œuvres de Léon Tolstoï. Nous lui écrivîmes et voici sa réponse. Yasnaya Polonia, octobre 1888. Monsieur, je suis vraiment désolée de vous avoir causé de la peine et je vous prie de me pardonner ma faute qui est bien involontaire comme vous allez voir. Il paraît en Russie une feuille mensuelle très peu répandue, le rabochi, c'est-à-dire l'ouvrier. Un de mes amis me donna le numéro de ce journal dans lequel se trouvait une traduction et une adaptation à la vie russe de votre récit Le Père Martin, ceci sans nom d'auteur. En me proposant de proposer ce récit pour en faire un conte populaire. Le récit me plut beaucoup. Je ne fis que changer un peu le style, ajouter quelques scènes, et je le remis à mon ami pour le publier sous mon nom, comme cela était convenu non seulement pour le Père Martin, mais même pour les récits qui étaient à moi. Pour la seconde édition, l'éditeur me pria de lui accorder le droit de mettre mon nom au récit qu'il avait reçu de moi. J'y consentis sans penser que parmi ces récits, dont 8 étaient de moi, le récit Martin ne l'était pas. Mais comme il avait été refait par moi, l'éditeur imite aussi mon nom comme aux autres. Dans l'une des éditions rédigées par moi, je fis ajouter au titre « Là où est l'amour, là est Dieu. La parenthèse, empruntée de l'anglais, l'ami qui m'avait donné le journal m'ayant dit que le récit était d'un auteur anglais. Mais dans mes œuvres complètes, on a omis la parenthèse. Et le traducteur a bien sûr fait la même chose. C'est ainsi, monsieur, qu'à mon grand regret, je me suis rendu coupable envers vous d'un plagiat involontaire. Et c'est avec le plus grand plaisir que je constate ici par cette lettre que le récit « Là où est l'amour, là est Dieu » n'est qu'une traduction et une adaptation aux mœurs russes de votre admirable récit, le Père Martin. Je vous prie, monsieur, d'excuser ma négligence et de recevoir l'assurance de mes sentiments fraternels. Signé Léon Tolstoï. Une décennie plus tard, devant la persistance de l'attribution à Tolstoï de son récit, notamment aux États-Unis, Rubén Sáenz proteste de nouveau. Léon Tolstoï lui répond une seconde fois. Cette lettre est reproduite en fac-similé dans l'ouvrage de Marguerite Varguenot Sáenz, Rubén et Jeanne Sáenz évangélistes, Les bons semeurs, Paris, 1947, en page 232. Voici la réponse de Tolstoï. « Monsieur, comme je vous l'ai écrit dans toutes les éditions russes qui se font de mes écrits, il est dit que le récit « Là où est l'amour, là est Dieu » est emprunté à une traduction faite du français et qui n'est autre chose que votre récit, le Père Martin. Pour ce qui est des traductions qui se font de votre récit en Amérique ou ailleurs, il m'est tout à fait impossible de les contrôler, d'autant plus qu'il y a plus de 15 ans que je me suis dédié de tous mes droits d'auteur pour tous mes ouvrages parus après 1881 en Russie, de même qu'à l'étranger. Recevez, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Le 20 mars 1899, signé Léon Tolstoï. Voici donc l'histoire de ce livre. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à la lecture du livre après un peu de musique. Le Père Martin, conte de Rubén Sáenz, écrit en 1883. Je lirai le texte de ce livre dans une ancienne édition qui remonte à 1950 et qui avait été éditée par la Ligue pour la lecture de la Bible aux éditions Lampe d'Or à Guebwiller. Vous ne connaissez pas le Père Martin. Quoiqu'il ne soit qu'un pauvre cordonnier, il ne loge pas dans une mansarde. Son atelier, son salon, sa chambre à coucher et sa cuisine sont tous réunis dans une échoppe de bois qui fait l'angle de la place de Lanche et de la rue des Martégales au centre du vieux quartier de Marseille. C'est là qu'il vit en philosophe, ni trop riche ni trop pauvre, ressemelant tout le quartier, car, depuis que ses yeux ont vieilli, le bonhomme ne travaille plus dans le neuf. si vous ne le connaissez pas, les pescailles du quartier Saint-Jean le connaissent bien, et les revendeuses du marché qui est sur la place, et les gamins de l'école communale qui passent comme un essaim devant sa porte lorsque 4 heures sonnent à l'évêché. Il leur a cousu des pièces à tous. Il sait où le seul soulier les blesse. Les ménagères n'ont de confiance qu'en lui pour mettre des talons solides aux chaussures de leur garnement qui éculent en 15 jours les souliers les mieux confectionnés. Le père Martin, depuis quelque temps, s'est fait la réputation d'être dévot. Non qu'il craigne le mot pour rire, mais depuis qu'il va aux conférences, comme on appelle ces réunions où l'on chante des cantiques et où l'on parle du bon Dieu, il est tout changé. Il ne travaille ni moins ni plus mal, au contraire. On ne le voit plus au café des Argonautes, comme autrefois. Il a un gros livre qu'on le voit lire souvent quand on regarde par le petit vitrage de son échoppe. Il paraît beaucoup plus heureux qu'il ne l'était auparavant. Il a eu des malheurs, le père Martin. Sa femme est morte il y a plus de 20 ans. Son fils, parti comme matelot à bord du brick le Phocéen, n'a plus reparu depuis 10 ans. Quant à sa fille, il n'en parle jamais. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle est devenue, une ombre passe sur son front. Il ne répond qu'en secouant la tête. Aussi, même quand il allait au café, après la journée, faire un piquet avec les camarades, le vieux cordonnier était-il rarement d'une gaieté parfaite. Maintenant, avons-nous dit, il paraît plus heureux. Son gros livre semble en être la cause. C'est la veille de Noël. Il fait au dehors un temps froid et humide, mais l'échoppe du père Martin est claire et bien chauffée. Il a fini son travail et mangé sa soupe. Son petit poêle ronfle et lui, assis dans un bon fauteuil de paille, ses besicles sur le nez, se tient près de la table et lit. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc, chapitre 2, verset 7. Ici, le lecteur s'arrête pour réfléchir. « Point de place, dit-il. Point de place pour lui. » Il regarde alors sa chambrette, étroite et propre dans sa pauvreté. « Il y aurait eu de la place pour lui ici, ajoute-t-il, s'il y était venu. Quel bonheur de le recevoir! Je me serais gênée, bien sûr. Je leur aurais donné toute la place. Point de place pour lui. Oh, que ne vient-il m'en demander une à moi? Je suis seule, je n'ai personne à qui penser. Chacun a sa famille, ses amis, qui se soucient de moi sur la terre. J'aimerais bien qu'il vienne me tenir compagnie. Si c'était aujourd'hui le premier Noël, si ce soir le Sauveur devait venir au monde, s'il choisissait mon échoppe pour y entrer, comme je le servirais, comme je l'adorerais. Pourquoi ne se montre-t-il plus aujourd'hui comme il le faisait autrefois? Que lui donnerais-je? La Bible dit bien ce qu'apportèrent les mages. De l'or, de l'encens, de la myrrhe, je n'ai rien de tout cela. Ils étaient riches, ces mages. Mais les bergers, que lui donnèrent-ils? Cela n'est pas dit. Ils n'eurent peut-être pas le temps de rien apporter. Ah, je sais bien, moi, ce que je lui donnerai. » Et le père Martin, au milieu de toutes ses pensées, plus ou moins incohérentes, se leva et tendit la main vers une étagère où se trouvaient deux mignons petits souliers soigneusement enveloppés, deux souliers de nourrisson. « Voilà, dit-il, voilà ce que je lui offrirai, mon chef-d'œuvre. C'est la mère qui serait contente. Mais à quoi pensais-je ? » reprit-il en souriant. « Vraiment, je radote. Est-il possible que je m'imagine des choses pareilles ? Comme si mon sauveur avait besoin de mon échoppe et de mes souliers. » Le vieillard s'enfonça dans son fauteuil et continua ses réflexions. La foule devenait de plus en plus nombreuse dans les rues, à mesure que la soirée s'avançait. Des bruits de réveillon commençaient à se faire entendre. Mais le père Martin ne bougeait pas. Il est probable qu'il s'était endormi. « Martin !» dit une voix douce tout près de lui. « Qui va là ?» cria le cordonnier en sursaut. Mais il eut beau se tourner vers la porte, il ne vit personne. « Martin, tu as désiré me voir. Eh bien, regarde dans la rue demain, depuis l'aurore jusqu'au soir. Tu me verras passer un moment ou l'autre. » « Efforce-toi de me reconnaître, car je ne me ferai point connaître à toi. » La voix se tut. Martin se frotta les yeux. Sa lampe s'était éteinte, le pétrole ayant manqué. Minuit sonnait à toutes les horloges. Noël était venu. « C'est lui ? » se dit le vieillard. « Il a promis de passer devant mon échoppe. » Peut-être était-ce un rêve ? N'importe, je l'attendrai. Je ne l'ai jamais vu, mais n'ai-je pas admiré son portrait dans toutes les églises ? Je saurais bien le reconnaître. Là-dessus, Martin gagna son lit et longtemps encore repassèrent dans son esprit les étranges paroles qu'il avait entendues. Longtemps avant le jour, la petite lampe du cordonnier était allumée. Il remit du charbon dans son poêle, qui n'était pas encore éteint, et se mit en devoir de préparer son café. Puis, il se hâta de ranger sa chambre et vint se placer enfin près de la fenêtre pour guetter les premières lueurs du jour et les premiers passants. Peu à peu, le ciel s'éclaira et Martin ne tarda pas à voir paraître sur la place le balayeur des rues. C'est le plus matinal de tous les travailleurs. Il ne lui accorda qu'un regard distrait. Il avait en vérité bien autre chose à faire qu'à regarder un balayeur de rue. Cependant, il paraissait faire froid au dehors, car la vitre se couvrait constamment de buée et le cantonnier, après avoir donné quelques vigoureux coups de balai, ne tarda pas à éprouver le besoin de se réchauffer par un exercice plus énergique en battant les bras de toutes ses forces et en frappant le sol tantôt d'un pied, tantôt de l'autre. « Le brave homme !» se dit Martin. « Il a froid tout de même !» C'est fait aujourd'hui, mais non pas pour lui. Si je lui offrais une tasse de café. » Et il frappa contre la vitre. Le balayeur tourna la tête, vit le père Martin derrière sa fenêtre et s'approcha. Le cordonnier ouvrit sa porte. « Entrez, dit-il, venez vous réchauffer. » « C'est pas de refus, merci. Quel temps de chien !» « On se croirait en Russie. »« Voulez-vous accepter une tasse de café ? » dit le père Martin. « Ah, par exemple, voilà un brave homme, avec plaisir, pardi. Vaut mieux tard que jamais pour faire mon petit réveillon. » Le cordonnier servit son hôte à la hâte, puis s'empressa de retourner vers la fenêtre et de sonder la rue et la place de tous côtés pour voir s'il n'était passé personne. « Qu'est-ce que vous avez à regarder dehors ?» lui dit enfin le balayeur. « J'attends mon maître, » répondit Martin. « Votre maître ? Vous travaillez donc en magasin ? La belle heure pour voir ses ouvriers. D'abord, c'est fête pour vous aujourd'hui. » « C'est d'un autre maître que je parle, » reprit le vieux cordonnier.
« Ah ?
Un maître qui peut venir à toute heure et qui m'a promis de venir aujourd'hui. Vous ne savez pas son nom ? C'est Jésus.
Ah, oh, j'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Où demeure-t-il ?
Le père Martin se mit alors en quelques mots à raconter au balayeur de rue l'histoire qu'il avait lue la veille, en y ajoutant quelques détails. Il se tournait vers la fenêtre tout en parlant.
Et c'est lui que vous attendez ?
Dit enfin le cantonnier quand il sut de qui il s'agissait.
« M'est avis que vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Mais c'est égal, vous me l'aurez fait voir à moi. Vous me prêterez votre livre, monsieur... »«
Martin, » dit le cordonnier.
« Monsieur Martin, je vous garantis que vous n'aurez pas perdu votre temps ce matin, quoiqu'il fasse à peine jour. Merci. » Et au revoir.
Et le cantonnier s'éloigna, laissant le père Martin seul de nouveau, le front collé contre la vitre. Quelques ivrognes attardés passèrent, mais le vieux cordonnier ne les regarda seulement pas. Puis arrivèrent les marchandes avec leurs petites charrettes. Il les connaissait trop bien pour faire grande attention à elles. Mais au bout d'une heure ou deux, ses regards furent attirés par une jeune femme, misérablement vêtue, portant un enfant dans ses bras. Elle était si pâle, si décharnée, que le cœur du vieillard s'émut. Peut-être cela le fit-il penser à sa fille ? Il ouvrit la porte et l'appela. « Hé, dites donc !» La pauvre femme entendit cet appel et se retourna surprise. Elle vit le père Martin qui lui faisait signe d'approcher. « Vous n'avez pas l'air bien portante, ma belle !» « Ma belle » est la locution la plus fréquemment employée dans le vieux Marseille. Elle s'applique indistinctement aux poissardes de la halle Vivo, aux blanchisseuses du lavoir public et à toutes les femmes jeunes ou vieilles, riches ou pauvres, qui ont affaire dans ces quartiers-là.
« Je vais à l'hôpital, » répondit la jeune femme. « J'espère bien qu'on m'y recevra, avec mon enfant. Mon mari est sur mer et voilà 3 mois que je l'attends. »«
Comme j'attends mon fils, » pensa le cordonnier.
« Il ne revient pas, et cependant, je n'ai plus le sou et je suis malade. Il faut bien que j'aille à l'hôpital. »«
Pauvre femme, » dit le vieillard attendri, « vous mangerez bien un morceau de pain en vous réchauffant. »«
Non ? » ?»«
Au moins une tasse de lait pour le petit. Tenez, voilà justement le mien que je n'ai pas encore touché. Chauffez-vous et laissez-moi le marmot. » J'en ai eu, moi, dans le temps. Je sais comment ça se manipule. Il a une crâne mine, le vôtre.
Quoi ?
Vous ne lui avez point mis de souliers ?
Je n'en ai point, soupira la pauvre femme.
Attendez donc. J'en ai une paire là qui va faire l'affaire.
Et le vieil ouvrier, au milieu des protestations et des remerciements de la mère, alla chercher les souliers qu'il avait regardés la veille.
Il les mit aux pieds de l'enfant. Il lui allait admirablement. Martin étouffa un soupir cependant en se séparant de son chef-d'œuvre, de ce qu'il avait fait de mieux en sa vie. « Bah !» se dit-il, « je n'en ai plus besoin pour personne maintenant. » Et il revint auprès de la fenêtre. Il se mit à regarder d'une façon si anxieuse que la jeune femme en fut surprise. « Qu'est-ce que vous regardez là ? » interrogea-t-elle. « J'attends mon maître, » répondit Martin. La jeune femme ne comprit pas ou ne se soucia pas de comprendre. « Connaissez-vous le Seigneur Jésus ? » lui demanda-t-il. « Certainement, » répondit-elle en faisant le signe de la croix. « Il n'y a pas si longtemps que j'ai appris mon catéchisme. » « C'est lui que j'attends, » reprit le vieillard. « Et vous croyez qu'il va passer par là ?» Il me l'a dit. « Pas possible ! Oh, que j'aimerais rester avec vous pour le voir moi aussi, si c'est vrai. Mais vous devez vous tromper. Et puis, il faut que je m'en aille pour être reçue à l'hôpital. « Savez-vous lire ?» dit le cordonnier. « Oui ? Eh bien, prenez ce petit livre, » reprit-il en lui mettant dans les mains un fragment de l'Évangile. « Lisez-le attentivement. Et ce ne sera pas tout à fait comme si vous le voyez, mais ce sera presque la même chose, et peut-être le verrez-vous plus tard. » La jeune femme prit le livre d'un air de doute, s'éloigna en disant « merci » et le vieillard reprit son poste auprès de la fenêtre. Les heures succédaient aux heures, les passants aux passants. Le petit poêle ronflait toujours et Martin, dans son fauteuil, regardait encore dans la rue. Le maître ne paraissait pas. Il avait bien vu passer un jeune prêtre aux cheveux blonds, aux yeux bleus, justement comme on représente le Christ dans les tableaux d'église. Mais, en passant auprès de son échoppe, le prêtre avait murmuré « Mea culpa ». Évidemment, le Christ ne se serait point accusé lui-même. Ce ne pouvait être lui. Les jeunes gens, les vieillards, les marins, les ouvriers, les ménagères, les grandes dames, tout ce monde passa devant lui. Bien des mendiants supplièrent le brave homme. Son bon regard semblait leur promettre quelque chose et ils ne furent point déçus. Cependant, le maître ne paraissait pas. Ses yeux étaient fatigués, son cœur commençait à défaillir. Les jours passent vite en décembre. Déjà, l'ombre s'allongeait sur la place. Déjà, la lumière de réverbère paraissait au loin. Déjà, les fenêtres d'en face commençaient à briller joyeusement et le fumet de la dinde rôtie, le mets traditionnel des Marseillais, s'élevait de toutes les cuisines. Et le maître ne paraissait pas. Enfin, la nuit vint, accompagnée de brouillard. Il était désormais inutile de se tenir près de la fenêtre. Les passants, devenus rares, s'éloignaient dans la brume sans qu'on pût les dévisager. Le vieillard s'approcha tristement de son poêle et se mit à préparer son modeste souper. « C'était un rêve, » murmura-t-il. « Pourtant, je l'avais bien espéré. » Son repas achevé, il ouvrit son livre et voulut se mettre à lire. Mais sa tristesse l'en empêcha. « Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, » répétait-il sans cesse. Tout à coup, la chambre s'éclaira d'une lumière surnaturelle. Et sans que la porte se fût ouverte, l'étroite échoppe se trouva pleine de monde. Le balayeur de rue était là. La jeune femme avec son enfant était là. Et chacun disait au vieillard « Ne m'as-tu pas vu ? Ne m'as-tu pas vu ?» Derrière eux venaient les mendiants à qui il avait fait l'aumône, les voisins à qui il avait dit une bonne parole, les enfants à qui il avait adressé un bon sourire, et chacun lui disait à son tour « Ne m'as-tu pas vu ? Ne m'as-tu pas vu ? Ne m'as-tu pas vu ?»« Mais qui êtes-vous donc ?» cria le cordonnier à tous ces fantômes. Alors, le petit enfant au bras de la jeune femme se pencha sur le livre du vieillard et de son doigt rose lui montra ce passage à l'endroit même où le grand livre était ouvert. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, vous me les avez faites à moi-même. » Matthieu, chapitre 25. Nous venons de lire le livre « Le Père Martin » de Ruben Saïens, édition de la Ligue pour la lecture de la Bible en 1950 par édition Lampe d'Or.
Bougez pas, vous êtes sur Alliance Plus.